bienvenue dans Onde Noire, deuxième partie d'émission et toujours nos coups de cœur. Et pour les coups de cœur, eh bien, je vais encore vous parler de quelqu'un dont vous entendez souvent parler. On fait un petit peu nos favoris ce soir, là, Yann Rankine, Ken Bruyne et l'Islandais Arnaldur Indridason. Un de ses derniers romans, Betty, est sorti il y a peu de temps, toujours chez le même éditeur, Métayer. Et par contre, aux surprises, ce n'est plus le même traducteur, c'est plus Éric Bourri, c'est Patrick Guelpa. Pour commencer, le début du roman. Je n'ai jamais aussi bien connu une femme, et pourtant aucune ne m'a été autant étrangère. Elle a été pour moi comme un livre ouvert, et en même temps une énigme absolument indéchiffrable. Cette femme dont parle le narrateur, c'est Betty. Et donc ce narrateur va nous raconter cette histoire avec cette, alors là on peut dire, beauté fatale du fond de sa prison, car il est en détention provisoire. Il est tout simplement accusé du meurtre du mari de Betty. Betty, une véritable diablesse, qui devient donc sa maîtresse, quelques mois auparavant, qui fait embaucher l'accusé près de son mari Thomas comme conseiller juridique. Betty, la femme battue, la femme meurtrie, qui un jour va se confier un peu plus à ce narrateur et évoquer la disparition de son mari, qui pense ses paroles avaient eu pour effet de faire s'évanouir une certaine innocence. Et évidemment, en parlant de la disparition éventuelle de son mari, c'est un peu avec un certain soulagement que Betty parle de cette disparition. Mais bien sûr, elle ne lui demande pas de tuer Thomas, son mari. Et puis, un jour, on retrouve le cadavre de Thomas. Et petit à petit, tous les indices concordent vers le narrateur. Betty y a veillé. Petit à petit, le piège se referme et l'on comprend en même temps que l'accusé la machination diabolique ourdie par Betty et peut-être quelqu'un d'autre. Comme je vous disais, Arnaldur Indridason est un de nos favoris et on le retrouve souvent. Mais ici, il délaisse son personnage du commissaire Erlendur Svensson pour un, en gros, splendide hommage au film noir américain des années 50 et aux non moins splendides femmes fatales qui entraînent immanquablement le héros malheureux vers la déchéance. Quand on lit ce roman, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer Betty sous les traits de Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort ou bien encore avec la plastique de Lana Turner dans Le facteur sonne toujours deux fois. C'est donc un hommage, mais on va de surprise en surprise et Arnaldur Indridason pourrait bien se révéler aussi retors que ses personnages féminins et nous tisser une toile narrative dans laquelle on va se laisser engluer jusqu'au dénouement final sans rien voir au début du roman. C'est vraiment, il y a une construction qui est vraiment très très intéressante. Je vous rappelle le titre du livre, Betty, c'est chez Métayer et c'est d'Arnaldur Indridason, l'Islandais. Jacques, alors là, on traverse l'Europe.
On redescend au sud et on retrouve, eh ben, puisque c'est la journée, un de nos favoris, le Sicilien Andrea Camilleri. Le roman s'appelle Intermittence, il est publié aussi chez Métayer et il est traduit par Serge Quadrupani, bien sûr. Alors là, le roman, la Manuelli, c'est une firme assez célèbre en Italie, fictive bien évidemment, mythique, et ses patrons, le vieux Manuelli au premier chef, eh ben, s'apprête en fait à réorganiser la société, fermer une ou deux entreprises, évidemment, avec les conséquences qui va s'en découler sur l'emploi. Et en même temps, eh ben, il s'apprête à faire une OPA sur une affaire concurrente. Donc, on a bien situé le cadre de l'action. Voilà. Et Mauro Blasi, lui, c'est le directeur de la Manuelli, directeur général. Il s'aperçoit au début du roman qu'il souffre d'un problème physique qui lui fait perdre par intermittence la conscience. Ce qui, évidemment, dans un milieu de requins pareil, est un sacré danger. Alors, on se demande, bien qu'on soit en Sicile, où c'est que veut bien nous amener Andrea Camilleri, car le milieu de la finance, du développement économique, c'est pas franchement son terrain de prédilection.
Dans ses séries précédentes, non, pas vraiment.
Mais bon, après tout, il peut bien vouloir faire un roman comme ça. Mais non, en fait, tout de suite arrive la femme du directeur, son amant, la secrétaire discrète et soumise, la jeune héritière de la compagnie d'en face, arriviste, le fils dédaigné, l'homme politique malléable, le gigolo, l'ex-flic de service, et là, un tourbillon absolument drôlatique, Camille Héry qui va nous entraîner dans ce tourbillon absolument drôlatique. Avec, évidemment, des dialogues absolument savoureux, des situations cocasses, et, on l'avait déjà vu dans un des précédents Enquête de Montalbano, des scènes plutôt hautes. Il pimente donc ces récits de petites scènes de sexe d'une verdeur audacieuse, on va dire. Alors évidemment, cette intermittence, c'est pas le roman qui va révolutionner l'art de Camille Héry, mais on aurait vraiment tort de...
Ni le roman noir en général.
Ni le roman noir en général, mais on aurait vraiment tort de se priver de ce marivaudage sous fond de restructuration d'entreprise, car derrière la rigolade, il y a quand même quelques petites piques vers ces gens qui s'amusent de la vie de leurs travailleurs sans s'inquiéter plus que ça de...
Alors donc c'est chez Métayer, là aussi chez Métayer.
Intermittence de Andrea Camilleri, traduit par Serge Cadrupani.
Et un petit morceau de musique de passer à un roman très noir là par contre.
Alors un petit peu de musique des Cowboy Junkies, des habitués aussi de l'émission. Leur dernier album qui s'appelle Sing in My Meadow et le morceau s'appelle Sing in My Meadow. c'est avec la belle voix de Margot Timmins des Cowboy Junkies que nous allons accueillir dans cette émission Alain Bandry.
Alain Bandry, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une soirée coup de cœur. Donc, vous allez nous parler d'un de vos coups de cœur.
Oui, le titre, c'est L'offense de Francesco De Filippo, qui est paru chez Métellier et qui est traduit par Serge Craviopani. Alors, c'est un coup de cœur et c'est un coup à l'estomac aussi, parce que c'est un bouquin qui m'a complètement bouleversé, pour différentes raisons. Donc, ça se situe à Naples. Alors, je vais pas mal citer, parce que il y a un travail d'écriture assez étonnant. Hein. Donc, ça se situe à Naples, qui est présenté ainsi, je cite, « De loin, sur la voie rapide, on voyait toute la ville, énorme, étalée, comme une belle femme, une très belle femme, un peu indifférente. Et quand elle se retournait, on voyait qu'elle avait une longue cicatrice, longue et double, sur le côté du visage. Quel dommage. Et cette cicatrice, c'était nous, tout le quartier. Une coupure large et tordue. Longue. » Fin de citation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot en italien qui désigne la cicatrice et l'offense, c'est le même.
Ah, d'accord.
Donc, du point de vue sémantique, c'est assez intéressant. Et cette cicatrice, donc cette offense qui est faite à cette femme, c'est la cicatrice qui est faite aussi à cette ville, qui est rongée par la Camorra. Et c'est dans les entrailles de cette ville et de la bête immonde que va nous emmener notre guide. Ce guide, c'est un personnage un peu juste, comme on dit en Provence, hein, plus, disons, ingénu, naïf. D'un candide qui va faire son initiation. Alors, il s'appelle Gennaro, il a 21 ans, et ce qu'il veut, c'est gagner sa vie pour nourrir sa femme et ses enfants. C'est un as désiré en scooter, et il fait des courses pour tous ceux qui en ont besoin. Mais sa vie va être complètement bouleversée quand il est convoqué par Don Raphaël, le parrain omnipotent du quartier. Mais pas uniquement du quartier, comme va petit à petit le comprendre notre guide, car Don Raphaël est un touche-à-tout de génie. Tout y passe. Trafic de drogue internationaux, trafic d'humains, d'armes, de déchets toxiques. Et il a aussi une main sur la politique locale. C'est à partir de ce moment que Gennaro va s'empêtrer tout doucement et sans échappatoire dans la toile tissée par la Camorra. Et là, il va croiser des situations particulièrement baroques, voire irréalistes. Des scènes orgiaques dans les sous-sols de la ville avec des lions, des animaux vivants qu'on leur jette en pâture. Des séances de torture organisées comme des spectacles de théâtre. Et durant ce voyage halluciné, dans un enfer de la douleur, car il souffre de sang et de froid, il est accompagné de Paolino, qui est le bras droit de Don Raphaël, un colosse sadique, insatiable, terrifiant, un obsédé sexuel sans limite, pour lequel Gennaro éprouve une sorte de pitié, jusqu'à un épisode cauchemardesque dans un restaurant, au cours duquel ce fameux Paolino, après avoir gazé tous les convives, va abuser d'eux pendant des heures. Alors là, c'est un revirement parce que c'est alors que Gennaro va prendre un peu conscience. Je cite, c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire de vrais camorristes. Tu peux voler, tu peux cogner quelqu'un, tu peux aussi tirer, tu peux même tuer. Mais ça ne veut pas dire que tu es un camorriste. Pour faire le camorriste, il fallait quelque chose de plus. Il fallait un animal dedans, un tigre dans le cœur. Qu'est-ce que j'en sais, putain? Et à partir de là, s'ensuit un long monologue intérieur, à la syntaxe complètement torturée, une sorte de halètement syncopé dans la langue populaire napolitaine admirablement traduite par Serge Craviopani. Dernière citation, il me semblait que j'avais les pieds dans une mare de sang, les mains dans une pâte faite de cadavres, cœur, cerveau et foie. On aurait dit une pluie de mort. Chaque jour il en tombait un, deux, trois. Il pleuvait du sang. Je fermais le parapluie et du sang coulait. Voilà, il est temps pour Gennaro de trouver un moyen de s'en sortir, de trouver peut-être le chemin de la rédemption. C'est la fin qui nous le dira. En tout cas, un roman d'une puissance assez rare.
Mais voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, le début de l'histoire ressemble à beaucoup de films ou beaucoup de livres qu'on a déjà lus avec un jeune qui, la seule manière de se sortir d'un quartier de Naples ou de Sicile, c'est d'être avec le parrain du quartier. Mais il a l'air de traiter cette histoire totalement, d'une manière totalement originale.
Oui, c'est-à-dire que Gennaro sait que Don Raphaël existe, il sait que la Camorra existe, mais il ne peut pas imaginer ce qu'il y a réellement dans la Camorra, quoi.
Et c'est là où il va.
C'est pour ça que j'ai parlé d'initiation, c'est-à-dire il va tomber dans un milieu épouvantable. Bon, il y a des il y a des rebondissements, mais il est loin, au départ, il est loin d'imaginer ce qu'il va voir.
Oui, donc nous, on a plutôt parlé, pendant cette les premières parties d'émission, de romans, pour une fois, un petit peu drôles et un peu jubilatoires, en particulier d'un autre traduit par Serge Kadripani, qui est le dernier, Andrea Camilleri. Celui-là, c'est vraiment un roman très noir.
C'est très noir, oui, c'est vraiment très noir, et qui joue dans l'exagération en plus. Et moi, ça m'a impressionné, franchement...
Alors, juste avant de se quitter, vous redemandez de reciter donc L'Offense, c'est le titre.
Oui, alors c'est L'Offense, donc c'est le titre. C'est de Francesco De, plus loin, Filippo, F-I-L-I-2-P-O. Traduction de Serge Kadripani, chez Métellier, ça coûte 20 euros.
Eh bien, merci beaucoup Alain Bandry, et j'espère à très bientôt.
Moi aussi.
Bonne soirée, au revoir. Voilà, donc on va redire, pour une fois, on a une minute d'avance, ça va nous permettre de redire les titres des romans dont on a parlé aujourd'hui, et peut-être aussi donner un site, le nom du site sur lequel on va pouvoir retrouver ces chroniques.
Donc le site, c'est Onde Noire, en un seul mot et au pluriel.
C'est tout, Onde Noire.
Onde Noire, bah oui,
www.ondenoire,
on peut dire http://onde-noire.com.
Voilà.
Mais de toute manière, on tombe dessus assez facilement.
Si on est les seuls, on est les seuls.
Non, pas tout à fait.
Onde Noire, on doit être les seuls.
On est les plus.
Voilà. Donc, Ken Bruen, Calibre. Puis, Jacques, Yann Rankin, Portes ouvertes. On a terminé la première partie d'émission avec un excellent roman noir consacré pour les ados qui s'appelle Silence de Benoît Sévrac. Nous avons continué
avec Intermittence de Andrea Camilleri,
précédé de Betty d'Arnaldur Indridason.
Tout à fait.
Pour terminer avec L'Offense chez Métayer.
On a parlé Francesco De Filippo, ouais, beaucoup de Métayer, mais il faut dire que là il y avait
C'est un bel hommage à cette excellente maison d'édition.
Et je rappelle, les Moorings, un groupe, ils sont autoproduits, allez sur leur MySpace, c'est vraiment très très bien dans le genre Pogs, et ils méritent un peu de considération.
Un groupe irlando-alsacien, c'est pas si fréquent que ça. Allez, on vous laisse avec un petit peu de notes génériques, ça va vous faire du bien aux oreilles. Au revoir, à la prochaine fois.